Ce soir, nous recevons Gilles Johannet. Gilles Johannet est diplômé de l'IEP de Paris, licencié en droit, ancien élève de l'ENA et diplômé d'économie appliquée. Il est aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il est spécialiste du système de soins, de la protection sociale et des problèmes économiques qui leur sont liés. Gilles Johannet est l'auteur de 3 ouvrages, Comptes et mécomptes de la protection sociale, RPF PUF 1985, Santé, dépenser sans compter, Santé de la France 1995, et La sécurité sociale, l'échec et le défi, le seuil 1998. Voilà, Gilles Johannet, c'est à vous.
Merci beaucoup. On verra si vous applaudissez à la fin. Je viens vous parler de la modernisation du système de soins et j'aborderai la question du système de soins dans ses 3 composantes. Pour commencer par le début, il s'agit de l'accès aux soins. C'est donc les conditions dans lesquelles vous et moi pouvons avoir accès aux généralistes, à l'infirmière ou au plateau technique hospitalier le plus lourd. C'est ensuite au cœur la dispensation des soins, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les professionnels de santé prodiguent leur art et éventuellement en rendent compte. Et puis c'est enfin ce dont on s'occupe laborieusement à la sécurité sociale, c'est-à-dire la prise en charge de ces soins afin d'assurer ce qui est dans la Constitution de notre République, l'égal accès de tous à ces soins. Système de soins, c'est un élément parmi d'autres de l'état de santé. Les experts sont d'accord pour considérer que ce n'est pas l'élément majeur. Le chiffre de 20% comme pondération à accorder au système de soins en tant qu'élément expliquant l'état de santé d'une population est un chiffre souvent cité. Je ne sais pas s'il est scientifique. Ce qui est à retenir dans ce domaine, c'est que l'hygiène, le mode de vie, les conditions de travail influent beaucoup plus sur l'état de santé que le système de soins. Ceci étant, celui-ci va jouer à la marge pour contribuer à ce que les résultats comparés entre la France et les autres pays développés, par exemple, apparaissent plus ou moins bons. Deuxièmement, il faut y accorder une attention particulière parce qu'on est en droit de considérer, au moins en théorie, qu'il est moins difficile et moins lent de faire évoluer le système de soins et de le moderniser que de faire évoluer les modes de vie, voire les conditions de travail. Enfin, n'oublions jamais que c'est le facteur le plus visible et le plus accepté comme tel par l'opinion publique, parmi les déterminants de santé comme étant un facteur à la main du politique dans le sens large et noble du terme. Ça mérite donc de lui accorder une attention particulière, d'autant que les caractéristiques du système de soins constitueront un indicateur précieux du degré de cohésion sociale devant la maladie et la mort, c'est-à-dire l'effectivité du principe proclamé, mais aussi de cohérence de l'action publique, car le système est par construction émietté quotidiennement, en fonction notamment de la diversité de la demande de soins, mais aussi de l'offre. Quand vous lisez aujourd'hui les livres publiés par les professeurs de médecine, je pense, pour ne prendre que des tout récents, celui du président Glorion, président de l'Ordre national des médecins, celui de Jean-Pierre Bader, vous serez certainement frappé de considérer que tous ces livres commencent, c'est un effet de génération, mais il est significatif, par le fait que les auteurs expriment leur stupéfaction rétrospective devant le changement absolument colossal des conditions et du contenu de la pratique médicale entre ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils ont vécu au début de leur carrière dans les années 50, qui leur apparaît à eux-mêmes, et ils l'écrivent rétrospectivement, quasiment paléolithique. Et il est vrai que depuis 1950, ce qui est très peu de choses, on a connu un extraordinaire progrès médical depuis, bien sûr, chacun s'en souvient, l'apparition des antibiotiques, mais aussi la microchirurgie, l'explosion de l'imagerie, la radiologie pluridimensionnelle, aujourd'hui la génétique moléculaire. Alors, le système de soins met à la disposition aujourd'hui de 60 millions de Français ayant tous désormais une protection maladie, une assurance maladie grâce à la loi instaurant la couverture maladie universelle, une offre de soins très diversifiée, de très haut niveau, je crois qu'on peut dire qu'elle est du meilleur niveau mondial sur le plan médical, mais pour autant, ce système comporte des faiblesses importantes et amène à se poser une question, la question de la modernisation, c'est-à-dire la question de savoir s'il n'est pas en voie d'obsolescence très rapide. Les faiblesses du système, j'en verrai trois grandes. La première grande faiblesse du système, c'est qu'il n'y a pas en France de coordination des soins. Très concrètement, très quotidiennement, combien sont nombreux les patients qui sont tout surpris en arrivant à l'hôpital de voir les hospitaliers qui les accueillent et qui les accueillent bien, au moins sur le plan technique, refaire les radios qu'ils ont subies en libéral, parce qu'il n'y a pas de coordination entre les soins hospitaliers et les soins de ville. Tout comme à l'intérieur des deux sphères, hospitalière et de ville, il n'y a pas de coordination non plus. Changer d'hôpital, c'est souvent refaire des examens, c'est reconstituer un dossier. Pas de coordination entre les libéraux. Passer d'un médecin à l'autre, le dossier médical ne suit pas. Il n'y a qu'un seul élément de coordination des soins, obligatoire, car il a toujours été considéré comme un facteur de qualité de le rendre obligatoire, c'est qu'il n'y a pas d'accès direct aux professions qu'on appelle d'ailleurs justement prescrites, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, etc., où là, la prise en charge par la collectivité nationale du coût des soins est subordonnée au passage par le médecin. Mais sinon, pour tout autre accès, cet accès est libre et il n'y a pas de circulation d'un dossier médical commun, et donc normé, forcément, qui, dans l'intérêt du patient, permettrait de meilleurs soins. Il n'y a pas non plus, et c'est la deuxième caractéristique, de transparence. Voilà un système qui effectue chaque année des millions et des millions d'actes, par exemple près de 8,5 millions d'opérations chirurgicales chaque année pour 60 millions de Français, qui dépense plus de 800 milliards de francs, mais qui au fond n'a pas de transparence à quelque niveau que ce soit, d'abord s'agissant des produits, c'est-à-dire des prestations sanitaires. Nous avons ce que nous appelons un panier dans le jargon de l'univers de la santé, un panier des biens et services remboursables qui est géré au jour le jour, suivant des critères qui ne sont pas très clairs, j'y reviendrai. S'effectuent chaque année des dizaines et des dizaines de millions d'actes médicaux dont la nature est inconnue. Pour en connaître la nature, il faudrait obtenir ce qu'on appelle un codage par nature, qui est en perspective, qui est déjà réalisé pour le médicament, qui est en perspective pour les actes, qui existe depuis des années en Allemagne, au Québec, au Danemark ou en Tchécoslovaquie. Ignorance également de la qualité des actes, puisqu'il n'y a aucune évaluation obligatoire, a fortiori normée de ces actes. Et enfin, ignorance, bien sûr, puisque la nature et la qualité sont ignorées, ignorance de l'adéquation des actes aux pathologies. Pas de transparence non plus sur les producteurs de soins, c'est-à-dire leur niveau de compétence pour pratiquer les actes qu'ils effectuent quotidiennement. Troisième caractéristique ou faiblesse du système, c'est un système qui n'est pas inséré dans une politique de santé publique. La politique de santé publique en France est une carence historique qui date au moins du milieu du siècle dernier, qui est corrigée progressivement depuis une dizaine d'années, mais on ne rattrape pas 150 ans en quelques années. Et donc nous n'avons pas à proprement parler une politique de santé publique qui serait fondée sur une connaissance fine des besoins, c'est-à-dire une épidémiologie, et par ailleurs définissant des priorités. Il est tout à fait symptomatique que dans un de ses rapports les plus récents, le Haut Comité de la Santé publique rappelait que durant les années 80, nous avons donné la priorité en France au traitement du sida, alors que le cancer tue infiniment plus que le sida. Ces trois carences ensemble, absence de coordination, absence de transparence et absence de cadre et de cohérence fournie par une politique de santé publique, au fond, peuvent se résumer en parlant du règne du laisser-faire. Le monde de la santé, le système de soins, est un monde où l'individu, qu'il soit praticien ou qu'il soit patient, fait ce qu'il veut, et naturellement, dans la quasi-totalité des cas, il veut bien faire, mon approche n'est pas morale. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans en rendre compte à quiconque. C'est l'application exemplaire de ce que j'appelle la théorie de l'optimum spontané. La théorie de l'optimum spontané, c'est simple, c'est l'action totalement libre, libre entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de responsabilité. L'action totalement libre de l'individu produira un optimum individuel, et la somme des optimums individuels créera un optimum collectif. C'est un système où la rencontre entre l'offre de soins, qu'elle soit hospitalière ou libérale, médicale ou paramédicale, et la demande de soins, qu'il s'agisse d'un besoin médicalement avéré ou d'une demande humainement ressentie, ne fait pas l'objet d'une régulation collective, soit d'une régulation administrée. Il y a bien sûr des morceaux de régulation administrée, mais pas un ensemble régulateur. Exemple de morceaux de régulation administrée, le numerus clausus, c'est-à-dire la limitation des effectifs d'étudiants en médecine, pharmacie, dentaire. Mais à partir du moment où, par exemple, on ne connaît pas les besoins que l'on aurait de néphrologue, ou de dermatologue, ou de cardiologue, la limitation du numerus clausus rencontre très vite une limite. Pas de régulation administrée, mais pas non plus de régulation par le marché. Vous savez que l'OCDE, il y a plus de 15 ans, après une longue étude concernant de très nombreux pays, par construction, c'est le rôle de l'OCDE, avait conclu que le marché ne pouvait pas réguler les soins. Tout simplement d'ailleurs parce que le consommateur n'est pas en situation d'être arbitre de ce dont il a, de ce dont il a besoin. Mais d'autres raisons s'opposent à ce qu'il y ait une part laissée à la régulation pour le marché. D'abord parce que les prix sont assez largement administrés, mais fondamentalement parce que la transparence n'existe pas, ce que j'évoquais tout à l'heure. Trois défauts donc qui expriment un laisser-faire, trois défauts qui sont consubstantiels au système de soins, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec sa construction progressive, et l'absence durant cette construction d'une remise à plat, d'une périodique ou même unique, a empêché, je crois, pendant très longtemps d'en prendre compte. La construction progressive avec, je crois, deux dates clés. C'est au tout début des années 30, l'émergence des règles fondamentales présidant au fonctionnement, au statut, en quelque sorte, de la médecine libérale, avec la liberté d'installation, le paiement à l'acte, le libre choix du médecin et d'autres. Et puis, la seconde date clé, c'est sans doute, s'il en faut une, 1958, l'ordonnance réorganisant le système hospitalier français. Il y a eu la loi de 71, il y a même eu une autre loi de 91, qui sont des lois très importantes, mais la grande hiérarchisation, en quelque sorte, avec les hôpitaux locaux, les hôpitaux généraux, puis les centres hospitalo-universitaires, c'est l'ordonnance de 1958. Alors, ces défauts, au fond, quand on regarde, ont eu pendant des décennies une portée limitée, tant que le système de soins était animé par une double croissance. D'abord une croissance extensive, quantitative si vous voulez, marquée d'abord par l'élargissement continu du champ des bénéficiaires, c'est-à-dire la solvabilisation croissante des Français et en fait l'extension de la sécurité sociale qui en 1945 ne concerne que les salariés. Vous disiez, madame, tout à l'heure que je dirige la Caisse nationale des travailleurs salariés, mais c'est une caisse aujourd'hui qui couvre 83% de la population française, c'est-à-dire c'est bien au-delà des salariés. Donc extension de l'assurance maladie de 45 à l'an 2000, avec la CMU, et élargissement continu des champs des bénéficiaires aussi, pas seulement par le droit, mais par les comportements, et l'accès de catégories socio-professionnelles, l'accès effectif à la consommation de soins durant les années 70, des agriculteurs, des commerçants, l'accès aussi des générations les plus anciennes, les personnes âgées, à cette consommation de soins. Croissance donc, première croissance quantitative, extensive. Deuxième raison de la croissance quantitative, c'est l'élargissement continu des prestations offertes par des effectifs médicaux croissants et des hôpitaux en nombre également croissant. Songez qu'en l'espace d'une quarantaine d'années, le nombre de médecins est passé de 35 000 à 180 000. C'est-à-dire une croissance tout à fait considérable. Il en a été de même pour les hôpitaux, avec, il est vrai, dans le cas des hôpitaux, un relatif déclin depuis une quinzaine d'années, alors que les effectifs médicaux, eux, continuent d'augmenter. Croissance extensive, donc, mais peut-être encore plus croissance intensive, avec une sophistication continue, une diversification continue de la gamme des prestations. Songez à la spécialisation de la chirurgie. Au fond, il y a 40 ans, on parlait de chirurgie. Maintenant, on parle de neurochirurgie, de chirurgie orthopédique, de chirurgie viscérale. La chirurgie générale est devenue mineure. Songez à l'explosion de l'imagerie avec les scanners que nous connaissons tous, sinon comme consommateurs, du moins comme citoyens ou lecteurs, l'IRM, aujourd'hui les PET scans, qui représentent des progrès absolument considérables. Mais donc, au fond, durant toutes ces années, 50, 60, 70, même sans doute le début des années 80, le trait fondamental du système de soins en France, c'est, je crois, qu'il y avait un quasi-consensus sur le fait que se soigner plus et dépenser plus était un signe achevé de progrès social et humain. Par construction, les insuffisances du système, la quantité de soins, l'égal accès aux soins, le libre accès aux soins, eh bien, étaient ressentis comme des carences, certes tout à fait regrettables, mais qui étaient appelées par l'évolution naturelle des choses à disparaître, puisqu'on était dans une tendance de croissance continue de la consommation de soins et naturellement de son financement. Ce quasi-consensus n'existe plus. Il n'est pas encore remplacé par un quasi-consensus inverse. Et pour comprendre, au fond, pourquoi il a disparu, je crois qu'il est important de voir quand il a disparu et comment. Je voudrais là-dessus donner quelques repères. Sur, par exemple, pour commencer, le niveau de performance financière. C'est-à-dire, en a-t-on pour son argent, tout simplement. Le rendement, le bénéfice tiré par l'assuré, patient, d'un prélèvement croissant et donc du bien fondé d'une dépense sans cesse croissante, 3,5% du PIB, quand on crée la sécurité sociale en 1945, plus de 10% aujourd'hui d'un PIB qui a été multiplié par 6, hein, évidemment. Donc le rendement, si vous voulez, d'une dépense sans cesse croissante et sans cesse croissant plus vite qu'ailleurs, c'est extrêmement important, a peu été mis en doute, avec peut-être là deux repères, le milieu des années 70, avec la crise du pétrole en 73, milieu des années 70 qui voit les débuts de plafonnement de la dépense hospitalière et l'instauration du numerus clausus que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur ce plan de la performance financière, il y a un quasi-consensus pour considérer que, oui, la hausse des dépenses est probablement inéluctable, en raison du vieillissement, par exemple. La consommation des personnes âgées étant plus élevée que celle des adultes. Mais c'est une raison de plus pour veiller à l'efficience du système, et donc au bon emploi des crédits consacrés à la santé. Ce qui est un changement tout à fait important, qui concerne bien sûr le politique, mais qui concerne aussi les professionnels de santé et, dans une fraction croissante, les assurés. En ce qui concerne le niveau de performance médicale, là, je crois que le tournant est plus brusque. En tout cas, il s'exprime de façon symbolique plus forte avec, je crois, la date de 1991, qui est l'éclatement du scandale de la transfusion sanguine, qui exprime une carence très forte de politique de santé publique, impliquant bien sûr l'État, mais aussi le corps médical. N'oubliez jamais que la spécificité française en matière de transfusion sanguine et donc de contamination vient d'une quasi-absence de la sélection clinique, je dis bien clinique, des donneurs de sang. Sur la troisième performance sur laquelle est jugé continuellement, même si c'est inconsciemment, le système de soins, c'est-à-dire le niveau de performance sociale, ben là, c'est encore moins avancé. Je dirais même que la prise de conscience est inachevée. Le niveau de performance sociale, c'est-à-dire au fond l'effectivité de la solidarité qui justifie une assurance maladie obligatoire avec une cotisation proportionnée aux revenus et non pas aux risques. Il va s'exprimer de deux façons. Premièrement, la façon dont on pense spontanément, c'est l'égal accès en fonction de la catégorie socio-professionnelle ou du revenu. Rappelez-vous que la première loi de généralisation de l'assurance maladie, c'est 1975. La loi la plus récente de généralisation, c'est la CMU au 1er janvier 2000, et on a des raisons de penser que ce sera la dernière. Mais enfin, ça a quand même pris 25 ans. Avec toutefois des ombres au tableau, c'est-à-dire depuis 20 ans, une augmentation continue des inégalités d'accès aux soins, qui ont donné lieu d'ailleurs à la CMU, au vote de la CMU, à la mise en place de ce dispositif, mais inégalité continue croissante d'accès aux soins qui déborde la seule population couverte par la CMU. Deuxième expression de la performance sociale, c'est l'égal accès en fonction du lieu où on habite, du lieu de résidence, l'égal accès géographique. Et là, la prise de conscience est tout à fait inachevée. Je suis personnellement très, très intrigué, très intéressé par le fait que depuis 4 ou 5 mois, nous discutons en France de la nécessité de maintenir une spécialité qui serait donc unique en Europe, qui serait la gynécologie médicale, séparée de l'obstétrique, et donc des dispositions à prendre dans ce domaine pour, au fond, garantir l'accès des femmes à leur gynécologue. Je suis fasciné par le fait que nous réussissions à en discuter depuis 4 mois, 6 mois, même maintenant, sans jamais avoir abordé un fait qui est quand même extraordinairement troublant, c'est que la densité de gynécologues médicaux pour 1000 femmes varie suivant les départements de 1 à 20, ce qui est absolument colossal. L'élément capital dans ce domaine, quand on apprécie le niveau de performance du système de soins, est pourtant, à mon avis, ailleurs, c'est qu'au fond, je crois que ce système de soins tel qu'il est, système de masse, système très linéaire, est en décalage croissant avec les besoins de notre temps. L'optimum spontané que j'évoquais tout à l'heure ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus d'abord parce que, ou de moins en moins bien, il fonctionne de moins en moins bien parce que la diversification de l'offre, l'atomisation de l'offre, qui en soi constitue une bonne chose, puisque c'est l'intégration d'un progrès médical que nous souhaitons tous, rend naturellement le libre arbitre de l'individu dans l'opacité particulièrement difficile à exercer. Mais je crois que c'est du côté de l'individu, praticien ou patient, que se situe le cœur de l'obsolescence. Au fond, si j'avais à caractériser la menace principale qui pèse sur le système de soins, je dirais qu'il ne permet pas à l'individu, qu'il soit praticien ou qu'il soit patient, d'adopter une démarche qualité, bien sûr fléchée, normée, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, et non pas au hasard ou en se fiant au oui-dire, ce qui est le mode actuel d'information de l'assuré, d'adopter une démarche qualité et d'en être gratifié, bien entendu. Vous voyez bien que l'optimum spontané tel qu'on l'a vécu, avec lequel on fonctionne depuis 1945, c'est un optimum qui est fondé sur les quantités d'actes, de prestations, de produits. Mais le choix en faveur de la qualité est impossible puisqu'il n'y a pas de labellisation, puisqu'il n'y a pas d'évaluation, puisqu'il n'y a pas de certification, ni des produits, ni des équipements, ni des structures, ni des producteurs. Il est tout à fait symptomatique que dans la proposition faite par AXA aux radiologues il y a 8 jours, de contrat passé entre AXA et les radiologues, AXA pose comme condition et la présente publiquement comme élémentaire le fait que les radiologues soient en mesure de leur présenter le contrat de maintenance de leur équipement. Chose que la Sécurité sociale, moi, je ne suis pas en droit de faire. Et pourtant, d'aucuns considéraient que c'est un minimum. À partir du moment où l'opacité, la linéarité aussi du système, interdit un choix en faveur de la qualité, on met en cause ce qui est une valeur majeure de la société d'aujourd'hui, l'individu et sa capacité de choix. Cela met en cause également une seconde valeur majeure de la société d'aujourd'hui, c'est la qualité et le rapport qualité-prix. Le consumérisme dans le sens noble du terme. Donc nous nous trouvons bien dans une situation où on peut à la fois dépenser de plus en plus, et c'est le cas, tout en obtenant une satisfaction de plus en plus faible, et c'est le cas aussi. Et cet élément d'analyse de l'instant, je crois, doit être considéré en accordant une réflexion peut-être aujourd'hui encore insuffisante aux deux séismes qui vont se produire inéluctablement et qui vont donner dans le monde des soins toute leur portée à l'émergence de l'individu. Le premier CI, c'est l'explosion de l'information sanitaire, ou pour faire vite, Internet santé. Internet santé, c'est un bouleversement du colloque singulier. C'est la multiplication des cas où le patient, surinformé, ce qui ne l'empêche pas d'être mésinformé, en saura plus que son traitant. C'est la multiplication, l'émiettement de l'information sur la qualité, l'information sur la qualité pouvant elle-même être dépourvue de qualité. C'est le contournement quasi total de toute la réglementation utile, bienvenue, efficace sur la prescription de spécialités médicamenteuses, puisque nous pouvons commander nos médicaments ailleurs comme on le veut. C'est enfin la circulation de données personnelles, indépendamment de toutes les lois qu'on peut voter pour protéger l'intimité et la vie privée. Explosion donc dont on n'a pas encore mesuré tout à fait la portée, alors qu'elle se produit en ce moment sous nos yeux en France. L'autre séisme, il est à venir, c'est pour dans 4 ans, 5 ans ou plus, c'est l'achèvement du séquençage du génome humain, qui nous offrira une palette absolument gigantesque de possibilités de connaissance, de dépistage, de maladies génétiques, et derrière, une palette de soins nettement plus restreinte, d'ailleurs, ce qui posera des problèmes éthiques tout à fait considérables, des problèmes de choix pour l'individu sur lequel je reviendrai, et naturellement des problèmes, mais c'est presque secondaire, de financement. À partir de cet état des lieux, que peut-on dire en matière de prospective ? C'est un exercice difficile, mais au fond, peut-on réfléchir ensemble sur ce que sera le système de soins dans 10 ans, a fortiori 15 ? Je crois qu'il aura trois grandes caractéristiques. C'est un système qui d'abord sera beaucoup plus sélectif qu'aujourd'hui. Nous n'aimons pas en France le mot « sélection ». Et quand l'assurance maladie dit qu'il faut être sélectif, et elle le dit, puisque ce conseil d'administration réunissant les partenaires sociaux a voté là-dessus des options tout à fait explicites, cela fait souvent peur. Cela fait souvent peur, mais c'est une peur qui est reposant souvent sur une ignorance, une double ignorance. Ignorance du fait qu'aucune assurance maladie au monde ne sélectionne pas. Aucune assurance maladie au monde ne prend en charge la totalité des biens et services offerts par les professionnels de santé. Elles sont toutes sélectives. Nous sommes déjà sélectifs en France, et c'est heureux sur le plan sanitaire, avec par exemple l'homologation des dispositifs médicaux, qui est d'ailleurs récente, avec l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Nous sommes sélectifs sur le plan financier avec la prise en charge ou la non prise en charge, mais la prise en charge qui prend la forme d'une liste des médicaments remboursables, qui prend la forme d'un tarif interministériel des prestations sanitaires, le TIPS, ça s'appelle comme ça, mais oubliez le sigle, pour les prothèses, par exemple, avec des nomenclatures pour les actes médicaux, les actes infirmiers, les actes de biologie. Et en cela, bien heureusement encore, la France ne singularise pas des autres pays. Mais cette sélectivité des produits, puisque je commence par les produits, est souvent illogique. Elle est donc peu lisible. Pourquoi elle est illogique ? Elle est d'abord illogique dans l'espace des soins existants à un instant donné. Et je ne peux donner de meilleur exemple, même s'il est parfois reçu comme une agression par certains, directement intéressés, financièrement ou intellectuellement, qu'en faisant remarquer que nous sommes quand même dans un système qui rembourse deux fois mieux l'homéopathie que les soins dentaires, ce qui est quand même unique au monde. Il est illogique également dans le temps, parce qu'au fond, ce système, en faisant tarder le déremboursement de biens qui, pour une raison ou une autre, ont une utilité médicale devenue mineure, fait également tarder l'admission au remboursement d'innovation. C'est un système qui respire mal. Comme il n'arrive pas à expirer, il n'arrive pas à inspirer. C'est un système qui est asthmatique et qui fait que quotidiennement, on envoie les échos dans la presse, on s'interroge, on s'étonne. Pourquoi la sécurité sociale ne rembourse pas ceci ou ne rembourse pas cela ? Très malheureusement, malgré les efforts que nous faisons, très laborieux certainement, rarement il existe des articles sur la question métrique. Pourquoi la sécurité sociale rembourse celui-ci ou rembourse cela ? Pourquoi les Français sont seuls au monde à consommer des vénotoniques et des vasodilatateurs au point que ce 1% de la population mondiale que nous sommes représente 80% de la consommation mondiale de vénotoniques et de vasodilatateurs. Mais comment font donc les Bataves, les Angles et les Teutons pour s'en passer ? Donc, illogique dans l'espace, illogique dans le temps, un système visqueux, de plus en plus visqueux au fur et à mesure qu'il paye, alors qu'il devrait être de plus en plus fluide, de moins en moins satisfaisant au fur et à mesure qu'il paye de plus en plus. La sélectivité des produits qu'on aura à l'avenir, ce sera, j'en suis convaincu, une gestion rationnelle et transparente de ce qu'on appelle le panier des biens et services remboursables, avec, je crois, trois étapes. En premier lieu, l'analyse de l'efficacité thérapeutique. Est-ce que ce produit, est-ce que cet acte, est-ce que ce dispositif médical a une efficacité thérapeutique ? C'est élémentaire, me direz-vous. Oui, oui, croyez-moi, ça va mieux en le disant. Il y a ensuite, deuxième étape, l'utilité médicale. Ah, c'est différent. Un produit peut avoir à un instant T une efficacité thérapeutique importante, et puis quelques années plus tard, ou beaucoup plus tard, parce qu'il apparaît une innovation, tout d'un coup voit son utilité médicale très réduite. Et donc, à ce moment-là, se pose la question de savoir si on doit continuer de le rembourser, sachant, et ça doit toujours être pour nous gestionnaires, mais pour vous aussi citoyens, une interrogation, ou plutôt une préoccupation quasi obsessionnelle, la ressource consacrée à l'assurance maladie est par construction limitée, les économistes diraient rare, donc on ne peut pas rembourser tout, donc quand on rembourse quelque chose qui a une utilité médicale mineure, on décide de ne pas rembourser quelque chose qui a une utilité médicale majeure. Seulement, évidemment, dans un cas, cela se voit, et dans l'autre, ça ne se voit pas forcément. Utilité médicale, et puis troisième stade de détermination de ce qui rentre dans le panier de biens et services remboursables, c'est plus compliqué, c'est l'utilité sociale pour l'individu, pour un groupe d'individus, et l'utilité sociétale pour la société dans son ensemble. Avec une rétroaction entre les trois étapes. Il est vrai, j'assistais à un séminaire de haut niveau, je crois, il y a quelques jours, et un chercheur de grande compétence faisait remarquer qu'il y aurait une certaine naïveté à considérer que pour toute la gamme des biens et services remboursables, on pouvait, au fond, dans un abord purement scientifique, déterminer l'efficacité thérapeutique. Pour une partie de la gamme, la détermination des critères de l'efficacité thérapeutique était beaucoup plus politique que scientifique. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne supprime en rien la nécessité de cette étape de définition de l'efficacité thérapeutique, même s'il y aura des prérequis, des critères qui seront fixés par l'autorité démocratique. Et cela nécessite néanmoins, dans la fixation, la détermination de l'efficacité thérapeutique, la pleine implication de la communauté médicale et scientifique, alors que si on va à l'autre bout de la chaîne, s'agissant de l'utilité sociale et sociétale, seule l'autorité politique est légitime à fixer ce qui est remboursable et ce qui ne l'est pas. Prenons un exemple très trivial. À l'heure actuelle, la sécurité sociale ne rembourse pas les plâtres hydrofuges. On ne considère pas que ce soit un produit de première nécessité. Et donc, si vous faites une luxation, a fortiori une fracture, vous serez privé de douche si elle est mal placée, cette luxation. Voilà, c'est comme ça. Absolument convaincu que dans quelques années, on considérera que le plâtre hydrofuge est un produit élémentaire et que donc il faudra le rembourser. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité thérapeutique. Absolument rien. C'est l'utilité sociétale. Mais donc, il y a une allée et venue permanente entre la communauté médicale, le dire d'expert, et la puissance publique, État, assurance maladie, le dire politique, pour, au fond, faire respirer cet ensemble remboursable et employer des critères qui sont connus de tous, à commencer par le citoyen. Sélectivité sur les produits, donc sélectivité sur les structures, hôpitaux et cliniques. Je suis absolument convaincu que ça imposera la logique du service rendu. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pour les hôpitaux, la logique qui s'impose est une logique du financement des structures. Il existe, donc je finance. Je crois que nous paierons la production. Je crois que nous paierons à la pathologie. C'est un système qui existe aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, le paiement à la pathologie. C'est un système auquel on réfléchit en France et qu'on expérimente depuis 1984. C'est naturellement un système qui peut impliquer de réels bouleversements, qui peut supprimer des rentes et au contraire donner de l'oxygène aux établissements hospitaliers, suivant qu'ils ont beaucoup de patients ou qu'ils en ont peu. C'est un système qui s'accompagnera d'un isolement et d'un financement spécifique des dépenses de services publics, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement, les urgences, possiblement. Service public qui, à mon sens, ne sera pas l'apanage des établissements publics, mais sera concédé, dans certains cas, aux établissements privés sur un cahier des charges. Alors là aussi, la sélectivité porte sur le financement, mais comme pour les produits, elle portera sur les soins, la nature médicale, la nature même. Et nous aurons dans une dizaine d'années un régime d'accréditation systématique des établissements hospitaliers, de labellisation en quelque sorte, qui sera naturellement accessible aux patients consommateurs. Accréditation qui entraînera un mouvement inéluctable de spécialisation des établissements hospitaliers, spécialisation qui permettra un maillage des établissements hospitaliers sur le territoire, mouvement qui est d'ailleurs commencé avec les décrets qu'avait préparé Bernard Kouchner et qui sont parus maintenant il y a un an et demi presque, sur les maternités. Nous avons enfin des maternités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, qui nous permet enfin de ne pas diriger vers le même établissement et vers la même équipe, en fonction donc du niveau d'équipement et du niveau de compétence de l'équipe, une grossesse tout à fait normale et une grossesse à très haut risque. Spécialisation, la spécialisation permet le maillage. La spécialisation et le maillage ensemble permettent la coordination des soins. Je vous disais tout à l'heure que nous n'avions pas de coordination des soins entre l'hôpital et la ville. Mais pour que le médecin libéral puisse envoyer dans un établissement hospitalier son patient, encore faut-il que la nature de ce que fait l'établissement hospitalier soit fléchée, normée. Sinon, le praticien libéral, il fait comme le patient. Il fonctionne par oui-dire, ce qui est quand même tout à fait singulier. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Une remarque sur la sélectivité des structures, elle s'opérera dans un contexte beaucoup plus délicat que la sélectivité sur les produits. Pour une raison simple à énoncer, mais qui sera difficile à vivre, c'est que tous les systèmes de soins du monde entier voient s'opérer en ce moment un changement considérable, qui est le déplacement du centre de gravité du système de soins. Il y a une dizaine d'années, le centre de gravité des systèmes de soins des pays développés, quinzaine d'années, c'était incontestablement l'hôpital. C'était la pointe de diamant, là où se trouvaient les équipements les plus sophistiqués, là où se trouvaient les compétences les plus abouties, les plus éprouvées. Et tout indique que dans 10 ans, le centre de gravité du système de soins sera même pas le libéral, le médicament. Le médicament. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que disparaîtront les médecins. Bien entendu, ça ne veut pas dire ça. Ni même que disparaîtront les hôpitaux existants. Ça veut dire quand même que la priorité financière, la priorité en matière d'évaluation et de labellisation portera sur le médicament, sa prescription, naturellement, que c'est là que se cristalliseront les attentes les plus fortes de l'opinion publique l'émergence, il y a peu, des trithérapies en matière de traitement du sida en ayant constitué un avant-goût. Mais alors, à partir du moment où le centre de gravité se déplace, les emplois se déplacent, les statuts se modifient, les rentes disparaissent. Sélectivité, enfin, sur les hommes. Vous savez ou vous ne savez pas, car on l'oublie souvent, que notre système repose à l'heure actuelle sur un conventionnement de l'offre de soins avec la sécurité sociale, qui est un conventionnement qui est triplement et même quadruplement automatique. C'est-à-dire, c'est un conventionnement entre l'offreur de soins et la Sécu, permettant la prise en charge de son activité, de sa pratique, qui se déroule d'abord sur toute la vie. C'est une fois, il entre en activité, il est conventionné jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelle que soit la quantité produite d'actes, il peut en faire 80 par jour, la Sécu ne peut rien dire. C'est quelle que soit la qualité de ses actes. Si la Sécu n'est pas contente, elle n'a qu'à faire un procès durant en moyenne 38 mois, et pendant ce temps-là, l'offreur de soins peut continuer d'agir. Enfin, c'est quel que soit le lieu où il s'installe, qu'il y ait intérêt général à ce qu'il s'installe dans ce lieu ou pas. Je crois que nous irons vers un conventionnement limité dans l'espace, en fonction notamment de la répartition de l'offre de soins sur le territoire. Nous ne pouvons pas avoir dans ce domaine-là aussi des inégalités croissantes. Inégalités d'ailleurs qui vont être d'autant plus croissantes que la démographie médicale n'augmente plus, va très probablement, et c'est l'intérêt général, se rétracter, et que le phénomène de rétraction de la démographie médicale va accroître ces inégalités. C'est naturellement dans les zones où l'exercice est le plus difficile ou est le moins gratifiant que la déprise démographique va d'abord s'opérer. Donc un conventionnement limité dans l'espace, un conventionnement limité dans le temps, marqué par une recertification régulière des professionnels de santé, en fonction non pas de leur degré de connaissance, il ne s'agit pas de les faire retourner sur le banc des facultés, mais en fonction de leurs compétences, de leurs pratiques, qui illustrera le fait que dans le monde moderne, la qualité ne s'affirme pas, elle se démontre. Première caractéristique, la sélectivité. Deuxième caractéristique qui va être, je crois, l'axe de l'évolution du système de soins, nous aurons un système qui va faire une place croissante à l'assuré décideur. L'assuré décideur va bénéficier de champs de choix inéluctablement individuels. Je ne développerai pas, mais le dépistage, les tests génétiques que j'évoquais tout à l'heure seront d'une telle conséquence. Par exemple, fait par une mère pour son enfant à naître, seront d'une telle conséquence que les choix ne peuvent être qu'individuels. L'information santé, Internet santé, c'est par construction individuel. J'ai entendu il y a quelques jours un ministre déclarait qu'à l'automne, on allait réglementer Internet, ça m'a laissé très rêveur. La traçabilité des données sanitaires concernant l'individu ne peut être qu'un choix individuel. Je suis persuadé que nous serons obligés, ce que ne fait pas la loi à l'heure actuelle, de donner à chaque individu la possibilité, s'il le veut, et pour le temps qu'il veut, d'avoir un dossier médical complet, et accessible et reconnu comme tel par le professionnel de santé. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisque le volet de santé de Vital 2, la future carte individuelle que vous aurez tous, ne prévoit pas de traçabilité. Je crois qu'il y aura d'autres champs individuels, ou qui pourront l'être, l'accès aux soins. En ce moment, pour l'accès aux soins, les Français ont le choix entre le nomadisme et le nomadisme. Demain, peut-être que le pays qui se gargarise d'être celui du libre choix donnera la possibilité de choisir entre le nomadisme, le médecin quand je veux, si je veux, c'est le club médicalisé, les filières, passer par un généraliste, c'est un peu vulgaire, mais enfin c'est ce que font 95% des pays développés, donc quand on a raison contre tout le monde, il faut quand même s'interroger. Et puis les réseaux de soins organisés autour d'une pathologie qui représente aussi un mode d'accès aux soins efficient. Peut-être qu'on aura le choix. Peut-être qu'on aura le choix aussi sur le dépistage. Généraliser le dépistage du cancer du sein, ça implique une démarche qualité, des obligations de qualité pour les praticiens, et on s'est engagé, mais aussi pour les patients. Je ne développe pas. Donc un système, et ça sera la troisième caractéristique, qui je crois sera pas seulement sélectif, et au fond faisant de l'assuré décideur le moteur de son fonctionnement, impliquant l'assuré dans sa démarche de soins, en lui fournissant les critères de qualité, mais aussi en lui donnant une sanction de ses choix, qui est une modulation, un système qui sera modulé, notamment dans sa prise en charge. Il sera modulé pour les produits. De moins en moins, nous rembourserons un médicament tous azimuts. Nous rembourserons les médicaments en fonction d'indications thérapeutiques, grâce notamment à la traçabilité du produit que nous obtiendrons avec le codage. Modulation également concernant les praticiens, avec l'instauration d'une habilitation à pratiquer certains actes. L'omnivalence du diplôme médical est morte. Elle est contraire à la qualité des soins, et il est très heureux de ce point de vue-là de voir l'évolution tout à fait spectaculaire de l'Ordre national des médecins dans cette affaire. Modulation enfin du ticket modérateur en fonction du comportement, en appliquant un principe finalement très simple. Voulez-vous vous engager dans une démarche de qualité maximale dans laquelle vous êtes impliqué, vous, patient, et réellement partenaire, c'est plus un mot, par exemple à travers la continuité des soins, réellement partenaire du praticien que vous choisissez. Alors, si vous vous engagez dans une démarche de qualité maximale, fléchée, bien entendu, il est normal que l'assurance maladie vous assure un remboursement maximal. Si, en revanche, vous préférez papillonner, vous préférez ne pas accepter les contraintes de la continuité des soins. La continuité des soins, c'est par exemple avoir en matière dentaire un plan de soins dentaires, bien sûr, comme ça existe à l'étranger. Mais si au fond vous avez 25 ans, vous êtes en très bonne santé, et à bon droit d'ailleurs, vous n'en ressentez pas la nécessité, et donc vous préférez une démarche de qualité partielle. Il est logique que l'assurance maladie vous assure un remboursement partiel. Modulation du ticket modérateur, donc certainement pas en fonction du revenu, comme cela se fait aujourd'hui. Un ticket modérateur linéaire qui ne tient pas compte de l'optimisation de la qualité pour un système qui fonctionne par oui-dire est un système qui élimine ceux qui ne bénéficient pas du bon oui-dire, bien entendu. Il y a là un quasi-délit d'initié continu. Donc non pas en fonction du revenu ou du niveau culturel, non pas en fonction du risque, mais en fonction de l'implication. L'implication exigeant pour être mise en œuvre une éducation sanitaire, qui reste à faire. Une révolution dans l'information continuellement fournie aux patients, notamment par l'assurance maladie. Enfin, une progressivité, parce qu'il s'agit d'un changement tout à fait important qui ne doit sûrement pas se retourner contre les assurés, mais au contraire leur bénéficier, tout comme il doit bénéficier aux professionnels de santé. Alors, en conclusion, je dirais que nous sommes à la veille, j'en suis absolument convaincu, de grands changements. J'ajouterais que les faits sont têtus, c'est-à-dire que une partie de ce changement dépend de la loi, ou plutôt une partie de la date à laquelle ce changement s'opère et des conditions dans lesquelles les citoyens ont conscience du changement dépendent de la loi. Mais les faits sont têtus et les changements auront lieu. Rapprocher, par exemple, le refus très récent des hospitaliers, qui était officiel, qui a donné lieu à un communiqué, de répondre à une enquête que voudrait renouveler un grand hebdomadaire sur les hôpitaux et les conditions d'accueil et de soins dans les hôpitaux. Les hospitaliers, cette année, ont refusé de collaborer à cette enquête. Je crois que c'est à mettre en balance avec l'explosion d'Internet Santé. Ceci étant, le système n'est pas immobile. Le système n'est pas immobile. Tous les acteurs bougent. L'État, je crois que c'est un phénomène tout à fait fondamental, a repris la main sur la politique de santé publique à partir de 1991. Et cette reprise de la politique de santé publique peut paraître aujourd'hui est, à mon sens, timide, insuffisante, partielle, mais on ne rattrape pas en 10 ans 150 ans d'absence. Les professionnels de santé sont peut-être l'acteur du système de soins, avec les assurés, avec l'assurance maladie, l'État, sont peut-être l'acteur qui a le plus évolué en 10 ans. Ils savent désormais, les professionnels de santé, que l'exercice solitaire de la médecine est une nostalgie. Ils savent également que la contrainte économique existe et qu'il ne s'agit pas d'un produit de la méchanceté des technocrates. Ils ne veulent pas être seuls responsables de la contrainte économique, et ça, c'est normal. L'assurance maladie gérée par les partenaires sociaux n'est plus l'assurance maladie des années 60, celle qu'on décrivait comme un véritable système de défausse des responsabilités, où les partenaires n'étaient jamais capables que de renvoyer à l'État les décisions difficiles. Année après année, mois après mois, les partenaires sociaux dans l'assurance maladie font des propositions à l'État qui sont, je crois, dignes d'intérêt. Les assurés, enfin, changent également. D'abord, ils changent spontanément dans la mesure où leurs exigences s'élèvent, qualité, information, dans la mesure aussi où ils se rendent compte que l'assurance maladie n'a qu'un lointain lien de parenté avec le Père Noël et que la qualité du système de soins va dépendre, ma foi, oui, c'est vrai, comme de tout le reste, de leur degré d'implication dans ce système. Je vous remercie.
Nous allons passer aux questions. Monsieur Lahaut.
Bonjour, monsieur Joannet. Je ne voudrais pas que vous preniez ma question pour une attaque personnelle, parce que ce n'en est pas une. Je suis représentant CFDT à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons en 1995 soutenu le plan Juppé parce qu'il était original. Il proposait autre chose que le déremboursement et la hausse des cotisations qui ont atteint un niveau désormais intolérable. Mais réformer le système de soins est aujourd'hui une absolue nécessité, mais pas à la hussarde. On ne peut le faire que dans le dialogue et la concertation. Or, aujourd'hui, un ministre qui, quand il était dans l'opposition, s'acharne à la hussarde à imposer une réforme qu'elle critiquait vertement à l'époque. Quand le budget de l'assistance publique cette année augmente de 1%, alors que l'inflation prévisible pour l'année 2000 est de 2%, n'est-ce pas augmenter, diminuer de facto le budget? Comment expliquer à un malade à qui on découvre un anévrisme en novembre qu'on ne pourra pas l'opérer avant janvier? Comment expliquer à des gens atteints de cancer que le service d'oncologie dans lequel ils se font soigner régulièrement sera fermé 2 mois pour dépassement de budget? Monsieur Joannet, voici la question qui, je répète, n'est pas une attaque personnelle. Le malade est-il encore au cœur de votre action? Ou est-ce la comptabilité nationale qui est au cœur de cette action? Et enfin, quand est-ce que la sécurité sociale prendra en charge la prévention qui, si elle coûte cher à court terme, a de larges bénéfices à long terme?
Oui. Sur les hôpitaux, la modération de la croissance des dépenses, 1% pour la paix de Paris, 2% ailleurs ou 3%, ça remonte année après année d'ailleurs, à mon avis, si vous voulez, se heurte très vite à des cas tels que ceux que vous citez, dès lors qu'on opère cette modération, toute chose égale d'ailleurs. Nous avons un appareil hospitalier qui est surdimensionné. Je vous rappelle quand même qu'une une enquête de la CNAM, pas une étude théorique, une enquête faite par la CNAM que j'avais décidée, qui a porté sur le dépouillement de tous les cahiers de salles d'opération de France. Tous. C'est sans précédent dans le monde. Faisait apparaître que 23% des secteurs opératoires, un secteur opératoire c'était en moyenne 3 salles d'op, hein. 23% des secteurs opératoires en France travaillaient moins d'une heure par jour. Comment explique-t-on que l'apparition des trithérapies n'a pas diminué d'un franc l'enveloppe sida des hôpitaux? Comment explique-t-on que l'apparition, la révolution médicamenteuse qu'on a connue, par exemple avec les anti-ulcéreux, n'a modifié en rien la paix de Paris, le nombre et les sommes consacrées aux services de gastro-entérologie? Ça, monsieur, les agents n'en sont pas responsables. Je suis bien d'accord avec vous. Je dirais même que les syndicats d'agents hospitaliers, de ce point de vue-là, expriment une position qui est une position très responsable. C'est-à-dire qu'au fond, cette évolution de la place du système hospitalier dans le système de soins français, cette évolution, elle est très lente à se faire. Elle est très difficile à se faire. Et si nous gardons l'offre de soins hospitalières dans toute son ampleur, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire surdimensionnée, ben, la maîtrise des dépenses n'est pas possible. Je ne le crois pas. Voilà. Ça exige donc des restructurations, c'est vrai. Vous dites qu'il faut du temps, que ça doit être dans le dialogue et de la concertation. C'est vrai aussi, j'en suis tout à fait convaincu. Mais il faut peut-être d'abord avoir un éclairage sur l'avenir. C'est peut-être ce qui manque le plus. Notre pays est un pays qui aime beaucoup produire des rapports administratifs. Il n'y a pas beaucoup de rapports sur la place de l'hôpital dans le système de soins dans 10 ans. C'est peut-être ce qui manque, voyez. Je dirais que pour répondre à votre question, bon, j'ai parlé de l'assuré décideur, j'ai parlé du patient, j'agis quelques dizaines d'heures par semaine à l'assurance maladie. Vous savez, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être des réactions un peu primates, mais enfin, si l'assuré n'était pas au cœur de nos préoccupations, je me demande ce que je ferais là, quoi. Hein. Par exemple, je vous donne l'état de notre réflexion sur l'assuré décideur, c'est peut-être aussi parce qu'on regarde le système tel qu'il est, on participe à son fonctionnement en considérant la place de l'assuré. Vous voyez ? On fait aussi attention à ce que nous disent les assurés. La sécurité sociale, l'assurance maladie, régime général, c'est 1300 points de contact avec le public en France. Centre de paiement, centre d'accueil. On a une relation avec les assurés qui est très forte. Et on y tient beaucoup. Sur la prévention, monsieur, vous voyez, c'est très intéressant votre question sur la prévention. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent coutume de dire la prévention en France, c'est un scandale. C'est moins de 2% des dépenses. Ça n'est pas vrai. C'est même totalement faux. Ce qui est vrai, c'est que la dépense recensée comme telle en faveur de la prévention, c'est 2%. Oui, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas ignorer le fait que dans l'exercice quotidien de la médecine et des paramédicaux, il y a en permanence, chaque jour, des milliers d'actes de soins préventifs. Alors rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans un système de laisser-faire et opaque. Donc nous savons que ça existe, nous savons que c'est massif, nous ne pouvons pas le recenser, le chiffrer, et donc, on l'oublie, on croit que ça n'existe plus. Plus grave, parce qu'après tout, le fait qu'on ne le valorise pas, qu'on ne le quantifie pas, n'est pas forcément très grave. Plus grave est le fait que ça n'est pas forcément normé, que ça ne répond pas forcément à des bonnes pratiques dégagées comme il faudrait que cela soit, par des conférences de consensus par lesquelles s'expriment les dires d'experts. Ça, c'est déjà un peu plus difficile. Donc, la question que nous avons en France, qui est une question lancinante, c'est de savoir, peut-on développer la prévention en maintenant le laisser-faire ? Je ne le crois pas.
D'autres questions ? Là, ici, s'il vous plaît.
Bonjour Monsieur Joannet, vous avez parlé du rôle du médecin et de la place du médecin. Quand on sait le nombre d'informations médicales qui tombent sur un bureau d'un médecin par mois, ce qui l'oblige, s'il voudrait se tenir au courant, à prendre, je pense, un mois de formation professionnelle par an pour se tenir informé, quand on voit que dans l'histoire, le médecin, et ça c'est un grand problème, a toujours refusé la légitimité de la sécurité sociale. Hein. C'est une des grands points fixes dans l'histoire de la Sécu. Mais considérant également que pour faire avancer les choses, il faut une concorde avec les médecins. Comment analysez-vous justement ce rôle, enfin votre fonction, et comment analyser les rapports que doit entretenir l'assurance maladie et les médecins ? Est-ce que vous croyez qu'une loi ou une loi de concorde peut modifier les choses ?
Non. On peut toujours faire une loi, ça ne mange pas trop de pain et ça fait parfois plaisir à certains, donc il ne faut pas se priver. Ce n'est pas laquelle est essentielle. Moi, l'essentiel, je vais vous dire, je le verrai sur deux plans. Le premier plan, c'est celui, je le mets en premier parce que c'est celui sur lequel on a le moins agi, y compris nous. Un médecin, aujourd'hui, il ne peut pas être bien dans son exercice s'il ne sait pas quel est son avenir. Et il faut reconnaître que l'avenir est très opaque. Nous venons à la CNAM d'engager depuis un an une réflexion sur l'évolution des métiers. Des métiers. Vous voyez le scanner hélicoïdal ? On va vous faire des coupes comme ça. C'est formidable, hein ? Oui, c'est formidable, mais ça veut dire une très grosse activité de plus pour les radiologues, une très grosse activité de moins pour les gastro-entérologues. Malaise. Y a-t-il en ce moment des coups de projecteur éclairant l'avenir sur l'évolution des métiers, des frontières interprofessionnelles, l'évolution du statut, l'évolution du magistère médical ? Très peu de réactions, très peu de réflexions, pardon, là-dessus. Et donc, vous voyez bien une inquiétude sur l'avenir qui dépasse très largement, qui est beaucoup plus profonde que l'inquiétude logique, que je comprends très bien, sur la régulation, la maîtrise des dépenses, qui est aussi celle des hospitaliers évoquée tout à l'heure. Premier plan. Et puis, deuxième plan, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fin de l'exercice solitaire de la médecine. Il n'y a pas de qualité sans contrainte. Un système de soins de qualité ne peut pas tout rembourser, ne doit pas tout rembourser. Donc, concrètement, le médecin face à son patient doit avoir le pouvoir de dire non. D'ailleurs, que vaut le pouvoir de dire oui quand on n'a pas le pouvoir de dire non ? Bon, mais alors le pouvoir de dire non, il ne faut pas qu'il soit seul. En 90, on a mis dans la convention médicale une formation médicale continue, indemnisée convenablement pour chaque journée de formation, par l'assurance maladie, et avec des enseignants, des formateurs, également financés par l'assurance maladie. Et à l'époque, on a mis 6 jours par an pour les praticiens conseils. Et 10 ans après, on en est encore très loin. Alors que vous avez raison, le besoin est très fort. Bon. Mais ça, on a, la FMC, c'est un moyen de ne pas laisser le praticien seul. Les références médicales opposables, vous vous souvenez de la plus populaire d'entre elles, qui d'ailleurs n'existe plus, pour une grossesse normale, il n'y a pas lieu de faire plus de 3 échographies. Les références médicales opposables, c'est aussi un moyen de ne pas laisser le praticien seul. Hein ? Je crois qu'il y en a d'autres. Je crois par exemple que nous devons apporter aux praticiens qui exercent dans des conditions rigoureuses sur le plan de la qualité, donc dans l'intérêt même des patients, nous devons aussi les protéger juridiquement. J'en suis absolument convaincu. J'ai fait une offre là-dessus aux syndicats médicaux en 89. Elle est en cours d'étude. Nous sommes en l'an 2000. Je pense qu'on débouchera d'ici une dizaine d'années. Non, non, mais c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile. Il y a également, si vous voulez, tout le discours médical. Le discours exercé par les sommets du magistère. J'évoquais tout à l'heure l'évolution de l'Ordre national des médecins sur la liberté d'installation. On pourrait évoquer l'évolution non moins considérable et heureuse de l'ordre des médecins sur la responsabilité, sur la certification. Bon. Il y a tout un ensemble qui fait que le médecin ne doit pas être seul. Vous voyez ? Et là, il y a beaucoup de travail, y compris pour nous. Ça ne les concerne pas que. Ça nous concerne aussi. Et je dis médecin, je pourrais dire, je devrais dire soignant. Mais le soigner aussi. Mais que oui, quand on dit, si vous voulez, modulation du ticket modérateur dans le cadre d'une implication de l'assuré, ça veut bien dire le soigner aussi. Un système ne peut pas être fondé sur la qualité si un seul des 2 acteurs du colloque singulier est tenu par des critères de qualité alors que l'autre ne le serait pas. Je vous donne un exemple très concret qui m'a toujours fait souffrir. Que je viens de vous donner, l'ARMO sur les grossesses normales, 3 échographies par grossesse normale. Pour le médecin, mais la femme, elle peut en faire 3 par jour, pendant toute la grossesse. Oh, j'ai vu une par semaine, hein. C'est déjà un rythme soutenu. Bon. Et la Sécu est obligée de rembourser. Kafkaïen. Kafkaïen, et vous voyez bien que plus nous allons, mais ils en sont d'accord d'ailleurs, imposer des normes de qualité aux professionnels de santé, plus le fait que ces normes ne s'imposent pas aux patients crée un déséquilibre inacceptable. Bien entendu. Si une conférence de consensus international dit la radiographie, la mammographie pour le dépistage du cancer de sein, c'est à partir de l'âge de 50 ans parce qu'avant le sein est illisible. C'est tous les 3 ans, c'est une double lecture. Bref, édicte des normes qui sont conformes à l'état de l'art. Par quel incroyable artifice arrive-t-on à conclure que ces normes s'imposent aux praticiens et pas aux patients ? C'est une imposture.
Pourquoi ? S'il vous plaît, là-haut. Non, excusez-moi, c'est monsieur là-haut d'abord.
Merci. Je suis médecin et heureux de mon exercice. J'essaie effectivement de faire beaucoup de coordination. Et là, je suis heureux de pouvoir effectivement m'exprimer directement en face de vous, puisque je suis assez gêné qu'il y ait souvent par exemple, vous entendre dire que nous fonctionnons par oui-dire. Je ne pense pas que ce soit notre cas. Nous fonctionnons par responsabilité professionnelle pour la plupart. Qu'effectivement, il puisse y avoir des dérives du fait de la spécialisation. Et là, moi, j'ai ouï dire que les spécialisations sont un peu autarciques et qu'il y a aussi des intérêts politiques autour. J'ai aussi ouï dire que la gestion de la caisse est parfois aussi onéreuse. Donc, ce serait heureux aussi de vous entendre sur ce sujet. Merci.
Oui.
Par ailleurs, je suis tout à fait ouvert à un colloque sur le bon usage de la médecine que je suis en train de lancer très largement.
Oui, je maintiens que vous fonctionnez par oui-dire. Et ça n'est pas antinomique avec ce que vous évoquez sur la spécialisation. Je veux dire, si vous, praticien, demain vous cherchez pour un de vos patients un service de greffe, un service de chirurgie cardiaque, un centre de dialyse, un laboratoire de biologie, vous fonctionnez par oui-dire. Dans aucun de ces cas-là, dans aucun cas, vous ne disposez d'un label quelconque de qualité concernant cette offre de soins que vous recherchez. Dans aucun cas. Vous fonctionnez par oui-dire. Vous voyez ce que je veux dire ? La gestion onéreuse des caisses, oui. Oui, vous avez quand même à votre disposition, c'est d'une lecture dense, j'en conviens. Ce que produisent mes collègues de la Cour des comptes, je suis magistrat à la Cour des comptes, dans mes moments de loisirs, et je vous recommande la lecture des 425 pages qu'ils ont publiées sur l'assurance maladie en septembre dernier, à moins que, dans un élan de sagesse, vous ne préfériez attendre les 400 et quelques pages qu'ils publieront en septembre prochain, et qui sont d'un grand intérêt. Mais bon, il faut quand même les lire. Au-delà de ça, je vous dirais, monsieur, que dans le projet de modernisation du service public que nous venons d'adopter pour la branche maladie pour les 4 ans 2000-2003, nous avons inscrit en toutes lettres comme objectif l'engagement de tous les organismes de l'assurance maladie, caisse primaire, caisse régionale, service médical, dans une démarche de certification ISO 9002 qui me semble complètement logique. Je ne peux pas dire que l'avenir appartient au fait que l'offre de santé est certifiée et dire que l'offre de service que je suis ne doit pas l'être. Elle doit l'être tout autant. Et donc vous devez aussi bénéficier pour la caisse, la vôtre, pour la caisse de vos patients, d'une labellisation, d'une certification. En outre, je ne vois pas pourquoi le service public, parce qu'il est un service public, tout d'un coup considérerait qu'il est exonéré du jugement, je crois, authentique que représente le fait que c'est une autorité indépendante qui fixe les critères et contrôle l'effectivité des critères de qualité. Le service public doit, ça doit être son exigence, doit remplir, avoir cette ambition-là. Et j'aimerais bien que l'assurance maladie soit le premier service public à remplir cette exigence. Il y a du boulot. Ouais. D'accord. Eh bien, raison de plus.
Madame.
Je suis généraliste. Je suis d'accord avec vous sur votre discours sur l'accréditation. Je voulais simplement savoir pourquoi ces fameuses journées de formation que vous avez évoquées tout à l'heure, rémunérées 15 C par jour en 90, c'est-à-dire nous avions droit en 90 à 10 journées par an de formation
oui.
rémunérées, ce qui semblait normal, entre guillemets. Et cette mesure a été supprimée. Je voulais savoir la raison pour laquelle elle a été supprimée.
Non, elle n'a pas été supprimée, heureusement. Je peux vous dire qu'on vient de récemment de voter une provision pour l'an 2000 et le premier trimestre 2001, de 90 millions de francs pour ça. Par contre, vous savez qu'il y a de grosses difficultés sur la définition des règles du jeu concernant la formation médicale continue, qui maintenant ne dépend plus de l'assurance maladie, mais dépend de l'État. Il y a un projet de refonte qu'avait préparé Bernard Kouchner, et on espère, je crois, que la loi de modernisation sanitaire qui a été annoncée pour la fin de l'année contiendra un chapitre sur la FMC qui permettra la relance de cette formation médicale continue.
J'ai encore une question là, s'il vous plaît. C'est la dernière question.
Il faut redescendre. Deux ou trois.
On ne pourra pas poser toutes les questions parce qu'on est obligé de rendre l'amphithéâtre, malheureusement.
Très vite.
Ici là. Merci.
Vous avez dit le médecin ne doit pas être seul. Je vous demandais l'assureur, est-ce qu'il doit rester seul? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un monopole de l'assurance? Est-ce que vous êtes pour une concurrence dans l'assurance? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe aux États-Unis? Quel est le bilan des HMO notamment, dont on a dit beaucoup de bien et dont on commence à dire beaucoup de mal?
Écoutez, l'assureur n'est pas seul. Nous sommes assureurs maladie obligatoires. Il y a à côté des assureurs maladie complémentaires, des mutuelles, des compagnies d'assurance privée. Pendant des années, elles ont été comme nous, linéaires, univoques. Au fond, l'assurance maladie obligatoire remboursait 72% en moyenne. Eh bien, eux remboursaient 10%. Et puis, c'était fini. Eh bien, oui, mais ça change. Ça change complètement. Maintenant, ils ont décidé d'être réactifs, d'être modulés. Mais ça change tout. Parce qu'au fond, vous aviez 72% d'un côté, 10% de l'autre. Je fais une moyenne, mais ça ne change pas le raisonnement. Et bien maintenant, ça va être 72 ou 92. Vous voyez, l'assureur complémentaire, il veut dire, je rembourse plus de 10%. Je rembourse 0% ou 20%. Et puis, nouveauté depuis quelques semaines, ben même quand l'assurance maladie obligatoire ne rembourse pas, ben moi, dans certaines conditions, je vais rembourser. Relanza, ostéodensitométrie. Donc vous voyez bien qu'il y a une concurrence sur le leadership et qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Les faits sont têtus. Et je crois que ça continuera et ça s'accentuera, tout simplement parce que les assureurs maladies complémentaires, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils ont des assurés, et c'est les mêmes que ceux de l'assurance maladie complémentaire, qui ne veulent pas payer plus. Ils estiment qu'ils payent assez, ils ont raison d'ailleurs, et qui veulent de la qualité reconnue comme telle, ce que j'appelle fléchée. D'accord ? Les États-Unis, c'est un système qui est radicalement différent de nous pour une raison capitale, c'est que l'assurance maladie n'est pas obligatoire. Et que donc il y a une concurrence très féroce entre différentes compagnies d'assurance, HMO, mutuelles, etc., qui s'exerce d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas à l'avantage des assureurs. Parce que là aussi, il y a une transparence qui est assez faible, beaucoup plus faible que par exemple dans le système allemand ou le système canadien, qui est beaucoup plus efficace. Ce qui fait qu'ils sont au premier rang mondial pour la dépense, 14% du PIB consacré à la santé, contre 10, nous sommes au troisième rang mondial. Et 35 millions d'Américains qui ne sont pas couverts, ça généralement on le sait, 35 millions d'Américains qui sont partiellement couverts durant leur vie ou tout le temps, mais très mal. Ça fait 70 millions d'Américains sur 240 millions qui ne bénéficient pas de ces 14%. Donc le rendement-là du système est vraiment très médiocre. Pas médicalement, il y a une médecine d'une extraordinaire qualité, mais socialement et financièrement. De ce point de vue-là, nous sommes assez voisins.
Voilà, J. Johannet, nous vous remercions.